Et ils disent que, vous voyez, tuer son fils, c'est obéir à Dieu. C'est un peu la reprise de différentes perceptions que vous aviez hier dans la vidéo, là. D'autres disent qu'effectivement Abraham a voulu offrir son fils et que Dieu a retenu sa main meurtrière au dernier moment. Il l'a illuminé. Alors, il faut savoir pourquoi. Alors, Kierkegaard voit, hein, on en a parlé hier aussi, voit l'illustration de l'adage fondamental de foi biblique, je crois parce que c'est absurde. Parce que c'est absurde, ce n'est pas humain, donc c'est divin. Bon, ben voilà. Hein? C'est un peu simplifié, Kierkegaard, mais enfin, en bref, disons que c'est ça. Mais un tel Dieu, l'autorité a toujours raison, Dieu aussi, mais un tel Dieu, dit-il, n'est certainement pas celui de la Bible. Hein? Dieu n'est pas, dans la Bible, n'est pas celui qui veut avoir raison, et ce n'est pas celui qui punit, et ce n'est pas celui qui envoie le mal. Mais c'est celui qui assume la réalité du mal. Le récit ne contient aucune donnée sur la psychologie d'Abraham ou d'Isaac. Il est théologique. Comment comprend-il alors le sacrifice d'Isaac? La réponse est dans le texte même. Maintenant, dit Dieu à Abraham, je sais que tu crains Dieu. Il dit, maintenant tu sais que tu me crains, là, il faut ça un petit peu. Mais ça va. Dieu a soumis Abraham à une épreuve ultime qui touche le plus profond de son être, c'est-à-dire la qualité de son rapport avec Dieu. Et c'est vrai que ce texte nous demande finalement quel rapport entretenons-nous avec Dieu. Et cette épreuve ne concerne pas une des vertus, la loyauté ou la force par exemple, comme Abraham en a déjà subi quelques-unes, mais son obéissance. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Abraham, acceptes-tu que je sois un Dieu souverainement libre et imprévisible? Que je sois Dieu tout court, et non le Dieu des astres ou du cosmos, une sorte de loi inscrite dans l'univers. Dans l'Épître aux Hébreux, Abraham sera loué précisément pour cette foi pure, sa persévérance, sa fidélité et son obéissance. Abraham, maintenant que tu me permets de demander jusqu'à l'inacceptable, que tu me permets de demander jusqu'à l'inacceptable, je sais que tu me crains et que tu m'obéis. C'est-à-dire qu'il y a une union vraiment profonde. Tu me demandes l'inacceptable, tu es vraiment tout autre que moi. Ce que tu demandes, c'est vraiment le plus profond de mon être. Dieu a mis Abraham dans une situation limite. Et ça, on n'y échappera pas. Et nous avons peur de nous trouver dans une situation limite. Il a pu montrer ce qu'il y a vraiment en lui. Le personnage biblique qui ressemble le plus à Abraham, c'est sans doute Job. Il est confronté au même problème. Seigneur, je sais que ceux qui te servent deviennent riches et que tu punis les méchants, mais voici que tu t'acharnes sur un innocent. Je t'ai toujours servi et jamais je n'ai commis le mal. Me voici pauvre, ruiné, malade au point de mourir. Me voici surtout raillé par mes amis. Ils me soupçonnent de toutes sortes de péchés secrets. Seigneur, tu te contredis toi-même. Qui peut encore te comprendre? Tu es un Dieu inintelligible, imprévisible, déroutant, un Dieu scandaleux. C'est l'épreuve. Le cap limite. La tentation touche le nerf même de la conception de Dieu dans l'âme de Job. Abraham aurait pu tenir le même langage. Seigneur, tu m'as fait de grandes promesses, une terre pour y habiter, un descendant. J'ai dû attendre si longtemps avant d'avoir ma terre à moi. J'ai erré sans rien comme un pauvre pèlerin. J'ai demandé un fils, car je n'avais que le fils d'une servante, ce qui a été la cause d'un grand conflit avec ma femme. Finalement, tu m'as donné Isaac. La garantie d'un peuple dont tu m'avais promis d'être le père. Avec lui, tout devenait possible. Tu me l'as donné, je l'ai tenu entre mes bras, comme le signe tangible de ta tendresse et le gage de la vérité de tes promesses. Maintenant, tu me demandes de porter la main sur lui. Telle est l'épreuve d'Abraham. Elle va au fond des choses. Elle touche à la promesse elle-même et introduit le doute dans le cœur du patriarche. Et le doute sur Dieu peut être un chemin vers Dieu. Quel est ce Dieu incompréhensible qui me demande de la mort et la vie? Elle risque d'y installer la confusion totale quant à la véritable nature et l'identité de Dieu. Dieu, qui est-il? Que veut-il? Peut-on se fier à lui? C'est la question que le texte nous pose. Il ne résout rien. Il montre un cas, comme le cardinal le dit, un cas limite. Passons de l'épreuve d'Abraham au nôtre. Si l'Écriture raconte cette aventure de la foi d'Abraham, c'est parce qu'elle n'est pas la dernière dans son genre. Elle est l'aventure de tout Israël et elle préfigure la nôtre. Quelles sont nos épreuves? Nous en avons d'individuelles et de collectives, sociales et même ecclésiales. Des épreuves cachées et ouvertes. Certaines de nos tentations ne touchent guère le fond et ne s'attaquent pas à notre confiance fondamentale en Dieu. Elles mettent à l'épreuve nos vertus. Ainsi, quand nous avons une chose dure à faire ou lourde à porter, c'est mettre à l'épreuve notre vertu de force. Il suffit d'augmenter notre force morale et l'épreuve elle-même aide à nous rendre plus forts en ce domaine. Ce sont des épreuves qu'on pourrait appeler quantitatives. Elles demandent un accroissement du taux de nos vertus. Mais il y a des épreuves qui vont au fond du cœur et de l'être. Elles touchent les fondements même de notre foi. Ce sont des flèches qui transpercent le cœur. Il ne suffit pas de s'exercer un peu plus dans l'une ou dans l'autre vertu. Ce sont par exemple les grands événements de la vie, personnels ou ecclésiales, qui nous renversent. Ou bien de petits faits symboliques qui nous révèlent tout à coup l'écart entre ce que nous avons cru être les promesses sûres de Dieu et la réalité telle qu'elle se présente. Toutes ces épreuves aboutissent à la même question, celle du pourquoi. Pourquoi Dieu peut-il me faire ça? Pourquoi à moi? Pourquoi peut-il me traiter ainsi son Église? Pourquoi se tait-il ou n'intervient-il pas? Dieu aurait-il vraiment abandonné son peuple? Toutes sortes de questions que vous trouvez constamment dans la Bible. Il faut passer à travers ces épreuves comme Abraham. Peut-y avoir des soubresauts de révolte contre Dieu? Soit si l'on continue à lui parler. Soit si l'on continue à lui parler. Comme Job, qui continue à parler à Dieu, tandis que ses amis ne le font pas. Il y a ce merveilleux récit de deux rabbins à Auschwitz. Voyant, c'est un récit qui est repris de l'histoire de la destruction de Jérusalem. Voyant autour d'eux l'Holocauste insupportable, ils disaient, Dieu, tu n'existes sans doute pas. Si tu existais, tu ne pourrais jamais permettre ce qui se passe ici. Après une demi-heure de reproches qui frôlaient le blasphème, ils se mettent à genoux et se disent « Et maintenant, prions. » La révolte des grands malades, par exemple, est encore une prière. On ne cesse de s'adresser à Dieu, comme dans les psaumes. Et il écoute. Le danger, ce serait de ne plus rien lui dire. Ce serait avoir perdu la foi. Et je trouve que, vous voyez, c'est bien dit, il ne dit pas tout, bien sûr, il n'y a pas moyen de dire tout, mais il nous dit bien une certaine dimension des choses, et on peut lire de la manière dont on veut ce texte, on n'échappera pas à cette question fondamentale, qui est ton Dieu? Est-ce que tu peux lui donner tout, jusqu'au plus profond de ton être? Ça, c'est reconnaître Dieu. Sinon, c'est encore avoir Dieu sous son contrôle. Et donc, imprévisible. Et oui, c'est ça, la question fondamentale, et celle qui est difficile à avaler, bien sûr.
Au fond, la Bible magnifie la foi d'Abraham et par ce récit, il est vraiment allé jusqu'à l'extrême limite pour prouver sa foi.
Et c'est bien sûr, de toute façon, une remise de soi à Dieu. Voilà. Je préfère vous en parler tout à l'heure. Je vais, si vous voulez bien, continuer le texte, parce que ce n'est pas fini. Nous ne pouvons pas terminer, comment dirais-je, sur ce passage du chapitre 22. Nous devons aller dans la suite pour comprendre aussi le chapitre 22e. Et je ne sais pas encore très bien ce que nous ferons après. Je pense qu'après avoir fini le cycle d'Abraham, le mieux serait de prendre quelques textes importants de ce qui suit. Isaac et Jacob. Merci. Isaac et Jacob, et éventuellement Joseph, pour avoir une idée d'ensemble, justement, de cette cohérence. Mais les choses sont, si je m'attarde tellement aux 11 premiers chapitres d'une part, et à ces chapitres-ci, 12 à 25 d'autre part, c'est parce que nous avons des clés interprétatives extrêmement importantes, qui valent pour tout le reste. Hein, comme vous avez, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, les deux premiers chapitres, les chapitres de l'enfance, vous donnent les clés pour tout le livre. Et si on ne relit pas constamment le livre à la lumière de ces premiers chapitres, il y a des choses qui échappent véritablement. De nouveau, c'est la cohérence qui est importante. Alors, vous direz, mais pourquoi tout d'un coup revient-il avec ce fameux Nachor? On a terminé, Abraham résida à Beersheba. Oh bon, c'est terminé. Eh bien non. Après ces événements, on annonça, regardez là, la manière dont c'est raconté, on annonça à Abraham que Milka avait aussi enfanté des fils à son frère Nahor. Vous voyez, le problème qui turlupine les gens, est-ce que ce n'est qu'Abraham? Est-ce que ce n'est que son petit clan qui va être comme cela élu? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui est annoncé pour le monde entier? On annonce à Abraham que Milka, elle aussi, avait enfanté des fils à son frère Nahor, son premier-né, Utz, Buz, le frère de celui-ci, Kemuel, père d'Aram, Keshet, Hazo, Pildash, Yidlaf, Betuel, entre parenthèses, Betuel engendra Rebecca. Ça vous annonce déjà la suite. Ce sont les 8 enfants que Milka donna à Nahor, le frère d'Abraham. Donc il y a là des cousins. Il avait une concubine nommée Réouma, qui eut aussi des enfants, Teba, Gaham, Tahash et Maaka. C'est vrai que ces noms ne nous disent absolument rien. Hein, si on va essayer de repérer, on verra qu'il y a derrière ces noms des régions. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de dispersion qui se fait, et toute cette dispersion est vue dans le rayonnement de l'histoire d'Abraham. Il est déjà en train de devenir bénédiction pour toutes les familles de la terre. Un peu ça qui est dit. À partir de cet Isaac qu'il a reçu une nouvelle fois de Dieu. Une sorte de recréation d'Isaac. Et une recréation de sa paternité.
J'en sors pas très bien dans le tableau généalogique. Son frère Nahor, c'est le frère d'Abraham.
Oui.
Et Milka, c'est qui là devant?
C'est la femme.
La belle-sœur.
La femme de Nahor, la belle-sœur d'Abraham. Voilà.
Parce que j'avais mal compris, Milka a donné un enfant de fils à son frère. Non, je dis, Milka est la sœur de Nahor, mais ça n'est pas...
Non, non,
Nachor, le frère d'Abraham, c'est redit. Et pour nous, il n'y a pas tellement grande utilité, mais justement, c'est de voir que Abraham est un chef de file, mais qu'il est aussi une présence de Dieu pour les autres.
Dans un livre, je t'interromps, Abraham, Sarah et les autres, ils expliquent qu'Abraham quitte le clan, on était en pleine endogamie.
Oui.
Et donc il s'en va pour permettre même biologiquement de ne pas dégénérer.
Tout à fait.
C'est ça que j'avais en tête en lisant de travers le texte.
Non, tout à fait, ça existe aussi. Et alors, ceci est important, après ce petit intermède là, la durée de la vie de Sarah, on n'en a pas parlé pendant tout le temps.
Vous vous rendez compte, hein?
La maman n'a pas été mise au courant. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'épreuve d'Abraham?
Il n'a rien dit.
La durée de la vie de Sarah fut de 127 ans. C'est exprimé comme ça. 127 ans. Et la tradition juive dit, à 100 ans, elle était encore aussi belle qu'à 20 ans, et à 20 ans, elle était encore aussi pure qu'à 7 ans. Il dit ça d'une autre manière. D'habitude, on dit 127 ans, exactement, comme c'est écrit ici, mais et 120 et 7 ans. Et elle mourut à Kiriath. Ah, elle est morte. Ah. C'est pas Isaac qui est mort, c'est sa maman. Et elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire la ville des quatre, c'est Hébron. Hébron, au pays de Canaan. Abraham entra faire le deuil de Sarah et la pleurer. Le deuil, le pleur, le rite, hein, c'est le sacerdotal de nouveau. Hein, nous trouvons dans une couche qui fait attention à tout ce qui est liturgie. Enfin, c'est un beau texte aussi parce que ça nous montre que le deuil est important. Faire le deuil. Encore une séparation. Faire le deuil. Et ici, cette séparation est totale. Ce n'est pas une petite séparation. Faire le deuil de Sarah et la pleurer. Et pleurer est important parce que ça exprime la dimension de l'amour. Le tout est de ne pas s'enfermer dans ses pleurs. Faire le deuil, c'est prendre distance. Puis Abraham se leva de devant son mort. Ah, c'est l'expression consacrée. Se lever de devant son mort. C'est-à-dire, on repart. On a pleuré, c'est-à-dire, on a accepté ce deuil, on en a pris conscience, on en a pris acte. Se leva de devant son mort. Maintenant, il faut montrer l'importance que sa femme avait pour lui. C'est-à-dire, il faut trouver un lieu de sépulture, un lieu où l'on puisse se rassembler et revenir. Ça, c'est une institution des nomades. Quand quelqu'un meurt, surtout dans des circonstances importantes, on l'enterre là où il meurt, en désert ou bien en bordure de ville, par exemple, on l'enterre là où il meurt, et ce lieu devient un lieu de pèlerinage, toute la famille et de tous les clans qui se sont dispersés un peu partout. Et chaque année, à l'époque où la personne est morte, on revient. On revient. On se retrouve. On se présente, les fiancés, les femmes, les maris, etc. Hein? Abraham se leva de devant son mort. Et parla ainsi aux fils de Chet, les gens du pays. Des étrangers pour lui, hein? Lui est nomade. Et il est étranger pour eux. Je suis venu chez vous, un étranger, je suis chez vous, pardon, un étranger et un hôte. Accordez-moi chez vous une concession funéraire pour que j'enlève mon mort et l'enterre. Les fils de Chet firent cette réponse à Abraham. Monseigneur, écoute-nous plutôt. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ton mort dans la meilleure de nos tombes. Personne ne te refusera sa tombe pour que tu puisses enterrer ton mort. Manière de le récupérer. Hein? On enterre ton mort dans une de nos tombes. Mais il n'y a pas de terrain pour toi. Mais nous sommes ouverts, nous sommes hospitaliers, pas de problème. Abraham se leva et s'inclina devant les gens du pays, les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous consentez que j'enlève mon mort et que je l'enterre, écoutez-moi. Et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsohar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui est à l'extrémité de son champ. Il a déjà lorgné vers un lopin de terre. Hein? Non. Pas enterré dans une de vos tombes, mais me céder une petite concession. Hein? Macpéla, comme on vous le disait hier dans le film, vient de la racine kafal, qui veut dire doublé. Hein? Double, pourquoi double? Ah, vous allez le voir. Macpéla, qui lui appartient. Double, probablement au départ, parce que c'est la grotte dans laquelle doit être enterrée la femme, puis le mari. Le couple. Traduire Macpéla comme couple aussi. Qui lui appartient, qui est à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède pour sa pleine valeur, en votre présence, comme concession funèbre. Et il sait très bien ce qu'il fait. Hein? Il agit exactement comme font les Bédouins. Il sait ce que c'est que le marchandage. Il a déjà marchandé avec Dieu, il peut marchander avec ses... les autres. C'est important le marchandage. C'est extrêmement important. Parce qu'un marchandage, c'est vraiment se mesurer. Jusqu'où puis-je aller? Jusqu'où est ma limite? Et on mesure ses limites. Le marchandage est le type du dialogue, de la négociation. Si vous ne marchandez pas, on va vous demander 5 fois le prix, c'est tout à fait normal. Vous refusez la relation et vous vous mettez au niveau matérialiste, prix plein, 5 fois autant. Si... Oui?
Il a marchandé pour le juste Sodome, il n'a pas marchandé pour son fils.
Il n'a pas marchandé pour son fils parce qu'on atteignait une autre réalité. Vous entendez, une autre réalité. Sodome, c'était bon, des hommes dans une ville. On va détruire une ville. Et s'il y a des gens qui sont dans la ville. Pour son fils,
c'est tout ou rien.
C'est tout ou rien. On ne peut pas dire, ben, on va simplement lui couper un pied ou une main. Non, mais on voit bien, c'est un autre type de problème. Le problème du fils est un problème beaucoup plus fondamental. Le problème du fils atteint l'être même d'Abraham. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'une relation entre les hommes. Et là aussi, à Sodome. Mais le Ephron en question était là, hein. On sait très bien, il sait très bien qu'il est là. Les Africains aiment bien ce texte parce qu'ils disent, bon, c'est un peu comme ça qu'on travaille à la palabre. On utilise, quand il le faut, tous les éléments que l'on connaît par ailleurs. Mais, quand il le faut. Or, Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hittite, répondit à Abraham, au su des fils de Heth et de tous ceux qui franchissent la porte de sa ville, c'est-à-dire ceux qui viennent faire la palabre, on fait la palabre à la porte. Mon Seigneur, écoute-moi plutôt. Je te donne le champ. Et je te donne aussi la grotte qui y est. Je te fais ce don au vu des fils de mon peuple en terre de mort.
Un cadeau.
Et le fils, ou le petit-fils, ou la troisième génération qui ne sait plus qui a un cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le fils ou le petit-fils ne va pas reprendre le champ? Abraham s'inclina devant les gens du pays. Il parla ainsi à Ephron au sud des gens du pays. Ah, ainsi c'est toi. on ne sait pas très bien ce qui se passe après, c'est, si c'est toi qui le veux, si c'est toi qui le dis, si c'est toi, hein, si Ephron, c'est toi. Mais écoute-moi plutôt. Je te donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'enterrerai la mort. Il veut vraiment un pacte en bonne et due forme, un contrat. Ephron répondit à Abraham, Monseigneur, écoute-moi plutôt. Une terre de 400 cycles d'argent entre moi et toi, qu'est-ce que cela en faire ton mort? Oui, il a donné le prix, hein. Gauche. Enterre ton mort. Hein, le cycle, c'est le shekel. Hein. C'est comme ça que la monnaie actuelle en Israël, ils ont repris le shekel, le shekalim. Enterre ton mort.
Ça fait une grosse somme.
Sans doute, hein. 400 cycles, ça devait être quelque chose. D'argent. D'argent. Mais je ne peux pas dire à peu près à quel. Parce que c'est très difficile de savoir à cette époque-là qu'est-ce que ça valait. Abraham donna son consentement à Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit au su des fils de Chet. Hein, on montre toujours qu'il y a des témoins. Soit 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Ainsi, le champ d'Ephron, qui est à Macpella, vis-à-vis de Mamré, hein, on ne sait pas de quel côté est Mamré, le champ et la grotte qui est sise, et tous les arbres qui sont dans le champ, dans sa limite, le contrat est fait en bonne et due forme, passèrent en propriété à Abraham au vu des fils de Chet et tous ceux qui franchissaient la porte de sa ville. Puis Abraham enterra Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan. C'est ainsi que le champ et la grotte qui est sise furent acquis à Abraham des fils de Chet comme concession future. Et ça, c'est un beau petit texte intéressant, un texte un peu juridique, là, qui est intercalé, là, pour nous dire que Sarah est morte. Et que Abraham donne tout le prix qu'il faut pour qu'elle ait une belle sépulture, une bonne sépulture, et pour que, au fond, Ephron devienne le centre du pèlerinage familial. Quand la famille veut se retrouver, elle va à Ephron. Vous voyez l'importance d'Ephron ?
C'est un sens prophétique, ce texte, c'est une manière de mainmise sur la terre promise.
Exactement. La grotte, mais c'est encore secret, c'est une grotte. C'est secret. Il y a le champ et la grotte. C'est déjà la terre promise, c'est déjà les arts, si vous voulez, le gage de la terre promise. Et effectivement, quand les autres vont mourir, Rebecca, Isaac, Jacob, Léa et Rachel, sauf Rachel qui est morte en couche à Bethléem, où va-t-on les amener?
C'est comme un peu une extraterritorialité en pays
tout à fait
étranger.
Tout à fait. Donc, et c'est un texte en fait prophétique, et qui veut aussi situer la grotte de Macpéla. Alors, c'est Sarah. Sarah est mère d'Isaac. Et les Juifs qui veulent Ephron disent, voyez, Sarah est mère d'Isaac. C'est Agar qui est mère d'Israël, n'a rien à voir dans la situation. Elle est la première qui est enterré à Macpéla, donc Ephron est juif. Vous voyez ce qui était là au début du film. Les autres disent, mais Abraham est père d'Isaac et d'Ismaël. Donc c'est Abraham qui est important. C'est pas le fils, c'est le père. Alors on n'en sort pas. Quel est le plus anciennement présent là? Abraham. Abraham est père de qui? Ismaël et Isaac. Oui, mais c'est Sarah qui a été. Abraham était alors un vieillard avancé en âge. Et le Seigneur avait béni Abraham en tout. Abraham invite au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens. On pense que c'est Eliezer, en tout cas la tradition le donne comme tel. Mets ta main sous ma cuisse. Mettre la main sous la cuisse, c'est le geste, c'est toucher les parties génitales du père. C'est-à-dire la semence. Et donc c'est faire un serment à partir de la vie. Et comme il va devoir aller chercher une épouse pour Isaac, il faut vraiment que l'on remonte à la source de la vie. Ça ne se fait pas n'importe comment. Mets ta main sous ma cuisse. Je te fais jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté. Tiens, on dirait qu'il ne l'a pas tout à fait quitté. Dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac.
Il est un peu raciste. Hein?
Le serviteur lui demanda, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Il faudrait peut-être bien aller avec lui, quoi. Tu pourrais choisir. Abraham lui répond, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Tu le ramènerais dans l'idolâtrie. Prends. Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance, le Seigneur enverra son ange devant toi pour que tu prennes une femme de là-bas pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. Ce qu'il faut préserver, c'est la foi dans Yahvé, qui est repris chaque fois le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et qui a promis de me donner une descendance. Le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître Abraham, et lui prêta serment pour cette affaire, cette parole. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître. Abraham avait-il des chameaux? C'est pour ça qu'on a écrit des articles.
Une femme qui coûtera cher.
Ah, toujours. Hein. Une femme coûte au moins quelques chameaux. Le serviteur. Ah ben, chez les nomades, c'est encore comme ça. On négocie. Il y a toujours une négociation. Dans certaines tribus, on négocie à partir de 10 chameaux.
C'est le prix minimum.
Oui, le prix minimum.
Une belle-mère, c'est un chameau.
Non, non.
Une belle-mère, c'est un chameau.
Ah oui. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître, et emportant de tout ce que son maître avait de bon, il faut quand même donner des échantillons de tout ce que son maître a, il se mit en route pour l'Aram Naharaïm. Aram, araméen, pays de Damas, du nord de Syrie, donc Naharaïm, des fleuves, entre les fleuves. Manière de dire la Mésopotamie, Naharaïm, pour la ville de Nahor. Et pourquoi on a parlé de Nahor? On va retourner chez Nahor. Il y a une parenté qui existe et il ne faut pas l'oublier. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et il dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, voilà une belle prière, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau.
C'est pas comme Moïse au puits.
Ah, Moïse va.
Cette fille de...
Ah oui, Moïse après va retrouver au puits. Il y a d'abord une femme, c'est l'ange qui a été rencontré, la femme près de la source là, hein. Vous vous rappelez, le chou. Et qui va montrer le puits, la Chayroï. Je me tiens près de la source pour puiser. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau.
Tu peux donner le texte de Chouraki?
Ah oui.
Voici, il
moi, je me poste sur l'œil des eaux.
Oui. La source est l'œil.
L'œil des eaux.
Oui. La source.
Les filles des hommes de la ville sortent puisées d'eau.
Oui, oui. L'œil est une source, hein. Et la source est un œil. C'est l'œil qui pleure. Aïm, c'est le même mot. Tout à fait.
Ouais, bon.
La jeune fille à qui je dirai « Incline donc ta cruche que je boive » et qui répondra « Bois et j'abreuverai aussi tes chameaux » ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est une fille qui sera généreuse comme l'était Abraham. Pas pour rien qu'on a loué sa générosité. Et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, Rivka, qui était la fille de Bethuel, on vient justement d'en parler, fils de Milka, la femme de Nachor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait approchée. Ça, c'est dit pour le lecteur. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et vite, elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je vais puiser aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. » Et vous savez, un chameau, ça ne se désaltère pas. Vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux.
Quel travail!
L'homme la considérait en silence, se demandant si le Seigneur l'avait ou non mené au but. Donc il y a un discernement à opérer. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-sicle, un demi-shekel, qu'il mit à ses narines et à ses bras deux bracelets pesant 10 sicles d'or. Voilà qui va la retarder un petit peu dans sa marche. C'est lourd, vous savez tout ça. Et il dit, « De qui es-tu la fille ? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit ?» Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milka a enfanté à Nachor. » Elle dit des choses que nous savons déjà, pour bien confirmer ce que nous savons. Et elle continua, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité et de la place pour gîter. » Alors l'homme se prosterna et adora le Seigneur et il dit, « Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Le Seigneur a guidé mes pas chez le frère de mon maître. » C'est encore dans la parenté, vous voyez. La jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui était arrivé. Or, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Et Laban courut au dehors vers l'homme à la source. Ou vers l'œil, si vous voulez. Dès qu'il y vit l'anneau et les bracelets que portait sa sœur, et qu'il eut entendu sa sœur Rebecca dire, voilà comment cet homme m'a parlé. Il alla vers l'homme. Il le trouva encore debout près des chameaux à la source. Il lui dit, viens, béni du Seigneur, car il le sait. Pourquoi restes-tu dehors quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux? C'était vite. L'homme vint à la maison et Laban débatta les chameaux. Donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et pour lui et les hommes qui l'accompagnaient, de l'eau pour se laver les pieds. Et il refait le geste d'Abraham. On lui présenta à manger. Mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. S'il mange, vous voyez, il est déjà entré dans la parenté. Il veut garder son indépendance. Qu'on ne lui mette pas la main sur lui. Oui, qu'on ne mette pas la main sur lui. Et Laban répondit, parle. Il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions. Et celui-ci est devenu très riche. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître Abraham, lui a, quand il était déjà vieux, enfanté un fils, auquel il a transmis tous ses biens. Il fait valoir la richesse d'Abraham, vous voyez. Mon maître m'a fait prêter ce serment. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille, choisir une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être cette femme n'acceptera pas de me suivre. Il m'a répondu, le Seigneur, en présence de qui j'ai marché, enverra son ange avec toi. Il te mènera au but et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, de ma maison paternelle. Tu seras alors quitte de ma malédiction. Tu seras allé dans ma famille et s'il te refuse, tu seras quitte de ma malédiction. Vous voyez, il dit tout, il est honnête, le gars, hein?
Mais les cartes sont là.
Je suis arrivé aujourd'hui, à la source, à l'œil, de l'eau. Et j'ai dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, montre, je te prie, si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais. Je me tiens près de la source. La jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche, et qui répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, ce sera la femme que le Seigneur a destinée au fils de mon maître. Que le Seigneur a destinée. Je n'avais pas fini de parler, en moi-même, que Rebecca sortait sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la source et puisa. Je lui dis, donne-moi à boire, s'il te plaît. Vite, elle se déchargea de sa cruche, et dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu, et elle a abreuvé aussi mes chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Pétuel, le fils que Milka a donné à Nahor. Alors j'ai mis cet anneau à ses narines et ses bracelets à ses bras. Je me suis prosterné, j'ai adoré le Seigneur, et j'ai béni le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, qui m'avait conduit par un chemin de bonté, prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Maintenant, ça c'est le maintenant conclusif, si vous êtes disposé à montrer à mon maître bienveillance et bonté, je suis venu par un chemin de bonté, on pourrait revenir sur ce chemin de bonté. Déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Vous êtes libre. Hein? Appel à une liberté. Pour que je me tourne à droite ou à gauche. Laban et Bethuel prirent la parole et dirent. La chose vient du Seigneur. Hein? Discernement collectif, discernement communautaire, dirions-nous aujourd'hui. Hein. La chose vient du Seigneur. Nous ne pouvons te dire ni oui, ni non. Rebecca est là devant toi, prends-la et pars, et qu'elle devienne ta femme. Nous ne pouvons te dire ni oui, ni non, mais nous disons quand même quelque chose. Hein. Rebecca est là devant toi, prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme a dit le Seigneur. Seigneur a parlé, hein, c'est difficile d'aller à l'encontre. Mais attention, nous ne pouvons dire ni oui ni non. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur. Il sortit des bijoux d'argent et d'or, il attendit à ce moment-là, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et ils burent. Vous retrouverez cela, ils mangèrent et ils burent, au moment de l'alliance au Sinaï, au chapitre 24 de l'Exode. Lui et les hommes qui l'accompagnaient. Vous l'avez déjà trouvé, hein, lorsque les trois sont arrivés pour annoncer à Abraham qu'il aurait un fils. Ils mangèrent, ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit, « Laissez-moi aller chez mon maître. » Alors le frère et la mère de Rebecca dirent, vous voyez que le frère est important, hein? Plus que le père. Le frère est important, et la mère. Le frère et la mère de Rebecca dirent que la jeune fille reste avec nous une couple de jours, ou une décade. Ensuite, elle partira. On peut partir tout de suite, hein? La rupture, c'est trop grand. Mais il lui répondit, ne me retardez pas, puisque c'est le Seigneur qui m'a mené au but. Laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître.
Il veut battre le fer quand il est chaud.
Oui, oui, oui. Ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Généralement, ça ne se faisait
quand
pas.
Quand même.
Généralement, ça ne se faisait pas. On négocie sans la jeune fille et puis on vient lui annoncer qu'elle est fiancée. Et dans certaines tribus arabes du désert, ça se fait encore comme cela. De Syrie et même... Dans la campagne en Turquie, ça se fait encore comme ça. Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, je veux bien. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham.